그. 이 담은 머리 있는 굴레 바바.
이 담은 머리 넌 불러 먹공. 먹공 몰라 문용아 봉일랑 울렁은 여자. 에이 담은 머리는 굴러 먹공. 먹공 몰라 문용아 봉일랑 울렁은 여자. 에이 담은 머리는 굴러 먹공. 먹공 몰라 문용아 봉일랑 울렁은 여자. 에이 담은 머리는 굴러 먹공. 먹공 몰라 문용아 봉일랑 울렁은 여자. 에이 담은 머리는 굴러 먹공.
Le plaisir de retrouver à nouveau Tinement à nos micros. Bonjour à toi.
Bonjour, bonne année. Le plaisir, il est pour moi de revenir pour poursuivre cette méditation que nous avons commencée.
Effectivement, nous étions rencontrés autour des grandes questions de la philosophie africaine et de la philosophie occidentale. Comment est-ce que, quelles étaient leurs différences et comment était la façon d'aborder les choses. Nous en étions arrivés à la question du conte de tradition orale, notamment le conte africain. Tu nous avais d'ailleurs conté une histoire, celle de l'araignée Kitis.
De l'araignée toilière. Moi, j'aime l'appeler Ndenbobo. C'est comme ça qu'on l'appelle chez nous, Ndenbobo. Cette araignée-là qui, tu me disais encore, a intenté un procès à Dieu. Et tu sais que le procès s'était terminé, on va dire, d'une façon un peu bizarre.
Alors justement, rappelons-le un petit peu pour les auditeurs, peut-être qui n'auraient pas eu ce premier épisode.
L'araignée a intenté un procès à Dieu, et comme chef d'accusation, il y avait le fait que Dieu prétend être bon, alors qu'il ne l'est pas du tout. Pour l'araignée, il ne l'est pas du tout, on va faire grand cri, il ne l'est pas du tout simplement parce que lorsqu'on écoute les humains, face aux difficultés de leur existence, ils reviennent toujours et la plupart du temps, ils nomment pour principal responsable de leur difficulté, de leur malheur, Dieu. Alors comment ce Dieu qui a créé les humains peut-il se satisfaire de voir ses créatures souffrir s'il est un Dieu bon? Telle est la question éminemment philosophique que l'araignée pose à Dieu. Et c'est vrai que dans le conte, on ne comprend pas pourquoi ce Dieu-là finit par le punir, parce que l'araignée est condamnée à rester suspendue entre le ciel et la terre, parce que, dit Dieu, elle a désobéi, elle n'a pas compris. Il faut creuser ce que repose Dieu. Est-ce que justement cet arbitrage est un arbitrage véritable? Qu'est-ce qu'on peut considérer comme message entre les lignes, parce que je voudrais ici commencer, avant qu'on embraye vraiment le chemin, vous notez les paroles de cet sage-là que je suis particulièrement, Amadou Ampateba, une fois de plus. Amadou Ampateba nous dit que pour les bambins qui s'abattent au clair de la lune, son conte est une histoire fantastique. Mais pour les fileuses de coton pendant les longues nuits de la saison froide, son conte est un passe-temps délectable. Pour les mentons velus et les talons rugueux, c'est une véritable révélation. Je m'arrête là. Vous imaginez donc que si le conte, c'est à la fois tout ça, un peu de fantasmagorie, certainement de la distraction, mais plus en profondeur, une sagesse, une vérité proprement humaine qui certainement indique un sens à notre existence.
Alors cette vérité humaine, lorsque tu nous as conté ce conte la première fois, tu mettais en avant ce côté, chacun y trouvera son chemin, chacun y trouvera ses éléments au moment venu, comme si cette sagesse pouvait pas être révélée d'un seul coup finalement, comme s'il fallait faire son propre chemin pour avoir accès à cette sagesse.
Fondamentalement, la vérité du conte ne se révèle pas si on ne vit pas le conte. Elle se rencontre toujours au détour d'une expérience personnelle qui nous fait rencontrer le conte. Mais il est du devoir des conteurs, dont je me fais ici le porte-voix, de transmettre la parole des contes et qu'au moment venu, les hommes la retrouvent dans leur vécu quotidien. C'est simplement de ça qu'il s'agit. Donc, si nous allons proposer des pistes ici, c'est pas pour que les uns et les autres épuisent l'expérience du conte et même la compréhension du conte. Loin de là, il s'agira simplement de défricher, de déblayer les voies et de nous laisser cheminer. Nous avons dit aussi la dernière fois que nous avons emprunté le sentier, nous faisons le chemin. Nous sommes entrés dans cette grande forêt, dans ce bosquet initiatique. Allons-y. Peut-être que dans cette société occidentale, cette société française, ces concepts de bosquet-là n'ont plus écho, mais de là où je viens, il s'agit véritablement d'entrer dans la forêt. Et vous savez ce que c'est que la forêt. Chez nous, la forêt, ça charrie tous les mystères, mais également toutes les bonnes choses. Cheminons.
Alors, cheminons justement ensemble et je te propose que tu sois notre défricheur et notre éclaireur, si tu le veux bien, dans ce bosquet. Dans cette histoire, dans ce conte, ce sont des animaux finalement qui interpellent Dieu, ce sont des animaux qui sont invités également à la grande fête qu'organise Dieu. Est-ce que à travers ce parallèle des animaux, on retrouve l'humain finalement? Est-ce que c'est pas aussi une façon d'aborder l'humain différemment?
Je pense que la réponse, elle est évidente. Les humains procèdent des animaux. Les humains sont l'un des derniers visages de l'évolution. Lorsqu'ils sont apparus, ils ont certainement dû observer les animaux qui les entouraient pour se construire une sagesse de vie. Et leur pensée maturant, et notamment pour le cas de la pensée africaine, on a l'impression que les Africains ont voulu garder ce lien-là. Dans la pensée africaine, vous ne retrouvez pas, du moins d'après le discours des contes, d'après la parole qui a été transmise par les anciens, cette idée de rupture entre la société humaine et la société animale. En réalité, la notion de société n'est même pas proprement humaine. Et on a comme l'impression que la notion de société est un continuum qui va des animaux aux hommes. Et si dans le conte, les animaux deviennent des personnages, c'est parce que justement les animaux sont les hommes et les hommes sont des animaux. Donc, regardons simplement ce qu'ils incarnent. C'est une dramaturgie dont le metteur en scène veut nous dire quelque chose, c'est ça le plus important. Regardons ce que les animaux incarnent et essayons de suivre.
Je ne peux pas ne pas faire le parallèle dans la culture occidentale avec par exemple les fables de La Fontaine où les animaux représentaient à travers ce qu'ils sont eux-mêmes dans leur fonctionnement certains traits de personnalité particulières de l'humain. On avait le renard pour souligner le côté rusé, on avait l'agneau pour la faiblesse et puis pour un petit peu le côté proie facile. On avait le loup comme le prédateur. Est-ce qu'on retrouve aussi ces parallèles finalement?
On les retrouve, on parle là des sociétés humaines. On les retrouve fondamentalement et vous verrez lorsque nous serons en train de décrypter le conte et que nous commencerons par décrypter les personnages du conte, les personnages principaux du moins, vous comprendrez que justement ces personnages sont choisis à dessein. Certes, ils sont choisis à dessein pour leurs caractéristiques, on va dire universelles, mais aussi pour leur représentation culturelle. Il est toujours important, dans le cas du conte africain, mais cela ne relativise pas totalement la dimension universelle du conte, de connaître quand même la signification ou alors l'idée que le peuple qui a fait émerger le conte se fait de ces êtres-là.
Notamment pour revenir sur les personnages. Et puis on va rentrer dans les personnages. Quand on abordait par exemple le greffier, c'est un varan hein, de mémoire. Ça évoque des choses forcément varan.
Ça évoque des choses. Mais commençons par l'araignée.
Tout à fait.
L'araignée toilière, c'est cette araignée-là qui tisse la toile. C'est également, si vous allez en Afrique, un animal très divin. L'araignée est un animal divinatoire. Vous verrez, pour certains peuples comme les Bassa du Cameroun, l'araignée qui est un totem et qui a pour frère l'amigale, et même chez des peuples comme les Bamileke et les Béti, sert généralement d'instrument de divination. L'araignée aussi, à travers sa toile, permet, disons, de traverser la rivière, vers l'au-delà. Souvenez-vous que lorsque Dieu invite l'araignée à ce festin, à un moment, elle tisse sa toile. Elle tisse sa toile pour aller, et le fait de tisser la toile a une signification profonde. Donc, l'araignée, c'est à la fois tout ça. Et puis, bon, on ne va pas revenir sur Dieu, ce que Dieu représente. Nous connaissons tous, du moins, ce que la notion de Dieu charrie. Et on nous dit également dans le conte qu'un fils de Dieu s'est communié. Il est important de méditer sur cette idée-là. Je profite pour vous rappeler que moi, j'ai rencontré ce conte dans mes leçons de philosophie. Et je vous avais dit qu'il était analysé par un philosophe camerounais qui s'appelle Marcien Toa. Et Marcien Toa disait simplement que c'est l'un des plus beaux exemples de ce que la philosophie africaine, la pensée africaine, a de plus grand. Cette capacité à ne rien soumettre, en fait, à ne rien permettre, à ne rien mettre au-dessus de la raison, de l'intelligence. Lorsque l'araignée intente un procès en Dieu, il y a quand même, par cette attitude, on peut lire, premièrement, le courage d'une araignée, parce que tout le monde, face à Dieu, s'abîme, généralement. Mais dans la pensée africaine, on voit là, et contrairement à ce qui a souvent été véhiculé, que les Africains ont eu ce courage-là de dire, même toi, Dieu, tu peux être appelé au tribunal pour justifier au nom de quoi est-ce que tu es Dieu. Il serait surprenant dans une Afrique qui se montre, comme on la voit aujourd'hui, je dirais faussement religieuse, que les gens ne se reposent plus la question. Certes, ils ne se reposent plus la question pour ne pas... Ils ne se posent pas cette question, pas pour sombrer dans l'athéisme, mais parce que Dieu doit justifier de ses honneurs. Si Dieu ne garantit pas le bien-être aux hommes, pourquoi est-ce qu'il est Dieu? Ces Africains-là aujourd'hui qui sombrent dans les religions, ces humains qui sombrent dans les religions doivent toujours se rappeler que si un Dieu n'est pas à la mesure de ses promesses, il faut l'enlever de son trône de Dieu.
Alors, on a vu, du coup, cette araignée, ce qu'elle représente, ce courage aussi qu'elle représente d'aller tenter un procès à Dieu. On a vu un petit peu ce que représentait Dieu lui-même, exactement. Sur les autres personnages de ce conte.
Les autres personnages, je vous ai dit, il y a le Fils de Dieu qui s'est communié. Et je noterai ici que le conte est raconté pendant que l'Afrique est christianisée. Et l'idée de communion indique, il est important de le signaler ici, tel que le narrateur le transmet, qui lui-même est influencé par, est déjà influencé par le christianisme. On ne sait pas ce que le conte était, mais indique néanmoins l'idée que ce Fils de Dieu-là a fait corps avec. Il est parvenu à s'unifier de nouveau avec Dieu. Donc, c'est à ce festin-là, on pourrait dire, il est devenu Christ, si on essayait d'utiliser le langage chrétien. Mais tu me disais tout à l'heure, venons-en le varan. Je ne sais pas si vous connaissez le varan ici. Le varan, chez nous, c'est un cas. On l'appelle un cas. Et un proverbe dit justement chez nous que Yunundwa en un cas, en fait, c'est une façon de te poser la question lorsque tu as des difficultés à comprendre certaines choses. On te dit Yunundwa en un cas. Est-ce que tu es sourd comme le varan? Donc tout de suite, il faut voir dans ce procès qui va se tenir quelque chose qui sera problématique par rapport même à la tenue du procès, c'est que le greffier, qui supposons doit noter les chefs d'accusation, est sourd. Est-ce que le procès n'est donc pas un non-lieu ? C'est-à-dire qu'il s'agit d'un simulacre de procès. Le procès peut-il avoir lieu ? Puisque les chefs d'accusation ne seront pas notés, le varant n'entendant pas, qu'est-ce qu'il va noter ? Voilà un autre élément de compréhension de ce qu'est ce compte. Parce que lorsqu'on dit que le varant est le greffier, il faut comprendre. On nous a dit également que dans le compte, il y a eu d'autres personnes, il y a eu un cochon qui est passé, il y a eu des humains, il y a eu plusieurs êtres qui passent et qui chaque fois répètent la même chose. C'est la caractéristique des humains. C'est Dieu qui me l'a fait. Et je pense que nous sommes tous un peu comme ça, sauf ceux qui vraiment, je ne dirais pas ont sombré, mais sont devenus athées, par éducation peut-être, mais par réflexe, la plupart du temps, on se réfère à Dieu. C'est Dieu.
Quand on ne se réfère pas à Dieu, de toute façon, il existe la même chose aussi chez les athées, c'est une espèce de fatalité.
Une espèce de fatalité.
Voilà, c'est finalement ce qu'on retrouve, on reproche à Dieu, finalement, pourrait être chez les athées ce qu'on appelle la fatalité.
La fatalité. Donc, si on avance dans la compréhension du conte, voilà donc un peu poser les différents personnages. Et vous vous rendez bien compte que je vous ai dit tout à l'heure que l'une des premières interprétations, et c'est celle que proposait le philosophe camerounais dont je vous parlais, c'est celle de dire que l'araignée, c'est l'incarnation de cet homme-là, l'homme rationnel, qui a le courage de dire « je ne m'abîme pas face aux croyances, je ne m'abîme pas face à la divinité, je pose que Dieu ne saurait être bon ». Si nous n'avons pas la justification de sa bienfaisance. Maintenant, l'autre dimension, me semble-t-il, et celle que je propose, la deuxième que je vais proposer, c'est celle de dire que dans ce conte-là, l'araignée, Dieu lui dit quand même quelque chose. Dieu lui dit, tu dis que je suis bon, mais je t'ai tout donné. Cette parole, elle est hautement significative et il faut la méditer. Il faut surtout la méditer dans le sens des paroles des sages africains. Lorsque la sagesse africaine dit « je t'ai tout donné » en parlant de l'araignée, il faut se souvenir que, comme je vous ai dit dans la culture africaine, l'araignée, c'est cet animal-là ou l'un de ces animaux-là qui, dans la tradition, a la capacité de communiquer naturellement avec le divin. La toile qu'il peut tisser est un instrument qui lui permet de dépasser non seulement la pesanteur au sens physique, mais d'un point de vue métaphysique, de dépasser la dimension visible pour aller au-delà. Ce qui fait que on peut voir qu'au grand étonnement de Dieu, Dieu semble dire à l'araignée, mais attention, j'ai mis entre tes mains tous les moyens. Aujourd'hui, tu m'accables. Et tes frères aussi. Je pourrais peut-être tolérer que tes frères m'accablent parce qu'ils sont sombrés dans l'oubli. Mais toi, qui as ton destin en main, est-ce que ce n'est pas véritablement toi le fautif ? Est-ce que ce n'est pas toi qu'il faut condamner ? Et c'est en ce sens que Dieu lui afflige cette condamnation-là.
Il y a un parallèle aussi quand Dieu dit « je t'ai tout donné ». La question est-ce que je t'ai tout donné tel quel ou est-ce que je t'ai donné tous les outils finalement on entend ça aussi à travers le « je t'ai tout donné ». Tout donné les outils pour après ton autonomie et puis
Nous allons arriver et c'est intéressant de poser cette question parce que je voulais en venir à la troisième dimension. Dans un autre passage... Le même Ampateba nous dit que les contes sont généralement les messages d'hier, transmis aujourd'hui pour demain. Et si j'ai choisi de partager ce conte, c'est parce qu'il me semble également que ce conteur est particulièrement pertinent pour nous aujourd'hui. Il est certes un conte d'hier, un conte d'un peuple éloigné, un conte d'un peuple peut-être qui, on va dire, qui au concert des nations... n'a pas une grande place, mais un conte qui, pour l'avenir de l'humanité, est très important. Pourquoi je dis qu'il est important? Parce que, souvenez-vous, Dieu dit à l'araignée, je vous ai tout donné. Je t'ai tout donné autant pour moi. Et l'araignée, c'est un peu l'araignée toilière, c'est un peu Spider-Man. Nous sommes dans un univers aujourd'hui à l'ère du net, où justement, c'est comme si ce conte nous revenait. Nous avons la toile entre nos mains. On nous a tout donné. On peut nous dire aujourd'hui que toutes les dictatures, toutes les oppressions, tous les moyens de domination qui nous opprimaient sont aujourd'hui, on a désormais les outils. On a même toujours eu les outils, mais j'ai envie de dire l'amplification de ces outils nous est désormais de la manière la plus patente entre les mains. C'est à nous de l'utiliser. Parce que le conte de l'araignée aussi, lorsque Dieu lui dit « Je t'ai tout donné, c'est à toi », en réalité, Dieu dit à l'araignée « Il faut que tu tisses ta toile et que tu viennes me retrouver. » Mais il se trouve que si tu tisses ta toile dans le désordre, si tu tisses ta toile dans le chaos, il faudra savoir ce qui va arriver. Et les citoyens d'aujourd'hui, nous qui sommes à l'ère du net, à l'ère de l'information, nous devons chacun comme l'araignée, nous avons ce défi-là de tisser notre toile. Notre toile qui peut être pour nous un outil d'épanouissement dont nous ne soupçonnons même pas encore les bienfaits, mais également qui peut être l'instrument de notre future plus grande servitude. Une servitude que l'humanité n'a jamais soupçonnée peut se cacher derrière cette chose-là. Donc voilà un peu le troisième message que je voulais partager. Nous n'épuisons pas les significations du conte, mais moi je voulais particulièrement revenir sur celui-là parce que c'est, pour moi c'est lui qui nous parle le plus dans cette époque. L'araignée, c'est ce personnage, ce tisseur de toile, et tous les humains, nous sommes des tisseurs de toile. Essayons de ne pas nous faire piéger dans notre propre toile, sinon comme l'araignée, nous mettrons en procès quelqu'un qui n'est pour rien, alors que c'est nous-mêmes. Je ne sais pas si je conclue, je n'ai pas la prétention de conclure, on peut continuer.
Alors moi j'aimerais bien, parce qu'il y a deux, trois autres éléments. Cette araignée dans le conte prend à partie les passants, notamment l'homme boiteux, qu'elle prend à partie. Moi j'ai dans ce conte... J'ai pas forcément décrypté tout, hein. C'est en tout cas, mais ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, mais en fait, cette araignée qui met en procès Dieu, finalement, elle prend à partie un petit peu tout le monde et finalement ne tient pas d'elle-même son accusatoire, mais finalement va chercher à travers les gens qui passent sur cette croisée des chemins, justement, va prendre à témoin les passants et notamment l'homme boiteux pour accusation finalement. Comme si elle donnait l'accusation aux autres.
D'une part, on pourrait lire la chose comme ça et... Moi, je dis, je ne prétends pas épuiser. Il s'agit pour moi de jeter un pavé dans la mare. Si l'araignée le fait, on peut lui reprocher, mais il faut quand même dire qu'à un moment, l'araignée a comme construit sa plaidoirie. Et ces différents passants qu'elle prend à témoin ne sont en réalité que les éléments d'un argumentaire qui tient à accabler Dieu. C'est vrai que l'araignée en elle-même ne tient pas, mais peut-être qu'elle tient simplement pour motif le fait que Dieu organise des fêtes parce qu'il se communie avec les gens. Elle se sent n'est pas encore communiée à Dieu et elle se dit, mais ce type, pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Il faut que je lui dise qu'il est vantard alors qu'il n'est pas bon. Or, l'araignée, comme j'ai dit, dans ce cas-là, le fait simplement parce qu'elle a sombré dans l'oubli. Vous savez, je vais vous partager quelque chose que je revisitais aujourd'hui, qui est proprement, et je vous avais parlé de ce concept, c'est le concept d'oubli. Nous ne nous rendons pas compte, mais Nous sommes dans une société où les questions fondamentales, les choses essentielles, nous les oublions. Nous sommes entrés et nous entrons chaque jour un peu plus dans la société de l'éphémère, dans la société de l'évanescence. Nous sommes de plus en plus dans ce que le philosophe allemand appelait l'oubli. L'oubli des choses essentielles, lui parlait de l'oubli de l'être, l'oubli de la question de l'être. Mais moi, je dirais aujourd'hui, nous sommes, même dans l'oubli du quotidien, il y a des choses qu'on vit aujourd'hui, on s'habitue et on commence même à oublier, par exemple, une vie sans masque. Il faut se souvenir et il faut garder l'idée de ce qu'une vie humaine est une vie où on voit des visages. C'est une vie où on se regarde, où on voit un beau sourire. Parce qu'aujourd'hui, le masque, le masque peut devenir un moyen sanitaire, il peut charrier tout ce qui est logique, mais un beau visage aussi, ça ne doit pas s'oublier. Un beau sourire, il y a peut-être ça. Ce sont les clés les plus essentielles de l'humanité. Donc, essayons de sortir de cet oubli. Et dans ce compte, l'un des principaux oublis, c'est que nous sommes responsables de notre vie. Aujourd'hui, tous les humains, nous sommes responsables du destin de notre existence. Nous sommes plus que jamais tissés dans la même toile. Nous avons peut-être hier été divisés parce que l'information ne circulait pas telle qu'elle circule aujourd'hui. Il y a des manipulateurs, il y a des instrumentalisations, mais que chacun à son niveau et au niveau intercommunautaire, qu'on fasse le travail pour que plus que jamais, nous vivions harmonieusement. Moi, je pense que c'est le sens et peut-être le message le plus profond à retenir de ce conte-là. Tissons nos toiles, chacun dans la responsabilité de ce que notre existence est un, j'aurais dit, est un devoir vis-à-vis des autres.
Eh bien, je te proposerais que nous ne concluions pas, ce qui nous laissera encore le chemin dégagé pour continuer de cheminer. Et puis, te proposer de cheminer encore un petit peu avec nous sur un prochain rendez-vous.
Sur un prochain rendez-vous, je ne refuserai pas. Peut-être que nous cheminerons sur les sentiers, cette fois, de la pensée et de la philosophie africaine. Et nous essaierons de voir, sans totalement exclure le conte, quelques passages de cette histoire-là d'un autre peuple, en quoi est-ce qu'elle peut nous éclairer par rapport à ce que nous avons dit aujourd'hui. Nous sommes une humanité en quête de sagesse. Nous avons beaucoup de choses entre nos mains.
Eh bien, nous la partagerons ensemble du mieux que nous pourrons alors.
Du mieux que nous pourrons.
Merci beaucoup, Tinman.
Oh, je le crois.